can't bribe the door on your way to the sky. You look pretty good down here, but you ain't really good. We never learned we've been here before. Why are we always stuck and running from the bullet? The bullet. We never learned we've been here before. Why are we always stuck and running from your bullet? A bullet.
Car vous êtes offerte par le garage Balcon du Jura, votre nouvelle agence Suzuki à Saint-Trois.
Il est 19h sur Radio Carnaval. Et si vous commencez à manger à l'instant, nous vous souhaitons un joyeux appétit.
Bonsoir à toutes et tous, vous êtes sur les ondes de Radio Carnaval et si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes à l'écoute de l'émission Stammtisch en compagnie de notre nouvelle invitée puisque les quatre derniers soirs, nous étions avec la pièce radiophonique. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h, bienvenue. Nous remercions notre parrain de l'émission chaleureusement, l'entreprise Beauvais Électricité à Sainte-Croix. Et comme d'habitude, je me tourne vers ma droite et je remarque que ma moitié radiophonique a quitté son habit des villes. Et elle a retrouvé celui d'habitude, puisque celui des champs, sans couette, ni bonnet, ni écharpe bleue. Mais qu'est-ce qui s'est passé, ma chère Sylvaine ?
Bonsoir tout le monde, bonsoir auditrice, auditeur, bonsoir Caroline, et bonsoir cher Sylvain. Il s'est passé que c'était bien, c'était magnifique. Maintenant, je ne sais pas. Voilà, moi j'ai pas plus trop l'habitude des bonnets, mais ça me grattait, j'en pouvais plus.
Ce soir, ma chère Sylvaine, nous allons parler du meilleur ami de l'homme. Je veux bien sûr parler du chien, et pas n'importe lequel, mais d'un chien conjuguant bienveillance, sécurité et travail, en aidant des personnes atteintes de malvoyance, de cécité totale, mais également des sourds aveugles. Et pour en parler, nous avons l'avantage de recevoir la Fondation Romande pour chiens guides d'aveugles. Une invitation qui a visiblement du sens, puisque dans la région de Sainte-Croix, nous avons effectivement des chiens de la Fondation qui sont actifs. Nous sommes heureux d'accueillir autour de la table Madame Caroline Pittet. Bonsoir Caroline.
Mais bonsoir, bonsoir Sylvaine, bonsoir Sylvain.
C'est d'autant plus un plaisir, Caroline, de te recevoir, puisque tu es un ami de cœur. Et puis, ça me fait vraiment plaisir de t'avoir autour de cette table ce soir. Caroline, qui représente ce soir la Fondation, un tout grand merci pour ta présence. Et nous allons jusqu'à 20h échanger sur la Fondation, ses activités, et sans oublier Enzo, un labrador mâle reproducteur, chien de la Fondation, dont tu t'occupes en priorité, mais également avec l'aide précieuse de ton ami, ton amour, Martial, dit Marcello pour les intimes, que nous saluons et à qui nous adressons nos amicales salutations. Mon cher Marcello, tu as droit à un gros baveux. Comme le souligne cette expression née au XXe siècle sous la plume de l'écrivain et avocat Denis Langlois, je veux parler de l'expression « La vie est un long fleuve tranquille, ce sont les rives qui sont dangereuses ». Ma chère Caroline, ce début 2025, un long fleuve tranquille ?
Un long fleuve tranquille, en effet.
Tout se passe bien pour toi, un bon début d'année.
Un bon début d'année. Aller mieux serait insupportable.
C'est parfait alors. Alors on est heureux. Sylvaine, alors je te laisse entamer cette interview de ce soir.
Oui, alors en allant sur le site de la Fondation, nous pouvons lire qu'elle a été créée en 1994 dans le canton de Neuchâtel et que cette Fondation est la première et la seule institution qui élève, éduque et remet des chiens guides d'aveugles en Suisse romande. La Fondation a élu domicile à Branle, dans le canton de Vaud, et depuis juillet 2016, il existe également une succursale, j'aime bien la succursale, à Magliasso, dans le canton du Tessin. On peut également relever que la Fondation Romande pour chiens guides dispose de son propre élevage de labrador. Caroline, après un rapide coup d'œil sur la carte de la Suisse, on constate que la Fondation est implantée au Tessin, ainsi que dans le canton de Vaud, mais qu'elle n'est pas présente dans le nord du pays. Y a-t-il une raison particulière ?
Alors non, il n'y a pas de raison, mais en réalité, il y a d'autres fondations qui forment des chiens guides, notamment en Suisse allemande. En tout, il existe 4 écoles pour chiens d'aveugles reconnues par l'OFAS, 3 en Suisse alémanique, Alschwil dans le canton de Bâle, Listal dans le canton de Bâle et Goldach à Saint-Gall, et évidemment la FRCA en Suisse romande, à Branle-en-Sulmoudon et au Tessin.
On apprend également que la Fondation est privée et ne reçoit pas de subventions de la part de la Confédération, ce qu'on aurait pu penser. Dès lors, comment est-ce que cette association, elle vit, elle subvient à ses besoins ?
Alors, elle vit essentiellement grâce aux dons des legs et également aux prestations AI. Les prestations AI, en fait, couvrent environ 23% des besoins annuels. Mais elles sont liées aux chiens guides en activité. Il est important de relever que tous les services sont gratuits pour les clients de la Fondation Romande pour chiens guides d'aveugles, qu'ils soient malvoyants ou non-voyants.
Nous donnerons donc au terme de l'émission le lien du site internet sur lequel vous pourrez vous rendre pour vous renseigner et trouver de nombreuses informations, notamment sur les différents moyens de soutenir également, bien sûr, la Fondation Romande de chiens guides pour les aveugles.
Oui, alors Caroline, le chien guide devient un trait d'union avec le monde des voyants. Il aide à créer des liens et il contribue à l'indépendance et à la mobilité des personnes non-voyantes ou malvoyantes en toute sécurité afin aussi de faciliter l'intégration en prenant part à la vie sociale. Comment se passe la formation d'un chien, c'est-à-dire la sociabilisation, les exercices pratiques, etc., notamment par l'intégration au sein d'une famille pendant plus d'une année ?
Alors en fait, tous les chiens sont issus de l'élevage de la Fondation. Tous ces chiens naissent à la nurserie de Branle. Ils y restent durant 9 semaines. Et pendant ces 9 semaines, ils bénéficient de sociabilisation précoce sur place grâce à une super équipe de bénévoles. Le but de ce programme, en fait, est d'encourager les contacts entre le chiot et l'être humain dès les premières semaines de vie, de débuter ensuite l'apprentissage aussi de la propreté, de les habituer à porter un collier, à marcher à la laisse, développer également leur sens par des jeux adaptés évidemment. Par l'introduction progressive de différents stimuli, les chiots sont, en fait, ils sont à l'aise, ces chiots, dans leur environnement. Et leurs facultés tactiles, visuelles, olfactives et auditives sont stimulées et renforcées. Les familles de parrainage reçoivent ainsi des chiots bien préparés, très à l'aise avec les êtres humains.
Caroline, dans la nurserie, combien il y a de chiots ? au principe?
Alors, il peut y avoir deux ou trois mères qui ont parfois entre 6 et jusqu'à 9 chiots. Donc, ça fait beaucoup de chiens.
Ça fait beaucoup de petits chiots. Hein.
Ça fait beaucoup d'adorables petits chiots, des petites boules d'amour.
Moi, j'avais une question. Les gens qui décident, qui prennent contact avec la fondation pour accueillir un de ces chiots, ils doivent remplir un certain nombre, je pense, de critères. Ou bien, comment ça se passe? Est-ce qu'ils signent quelque chose? Est-ce que c'est des familles avec des enfants? Est-ce qu'une personne seule peut en avoir? Ou bien pas forcément?
Alors, en fait, souvent, les gens viennent déjà aux journées portes ouvertes. Il y a des journées portes ouvertes à la fondation Temps à Branle, côté Saint. Là, ils ont l'occasion de voir, de participer vraiment à... Ils peuvent voir les chiots, ils peuvent voir les chiens quasi en fin de formation pratiquer. C'est juste assez dingue. Et ensuite, sur place, il y a des formulaires qu'ils peuvent remplir. S'ils sont intéressés et qu'ils prennent un chiot, en fait, les familles signent un contrat avec la fondation. Et vraiment, ils ont des... Alors moi, j'ai pas de chien en parrainage, je sais pas quels sont exactement les critères de Molly, mais ils ont vraiment un contrat qu'ils doivent remplir. Et ça se passe en principe assez bien.
Oui, bah j'ai des connaissances qui ont des enfants qui sont en famille et puis qui ont accueilli de ces chiens. Et puis j'ai aussi des couples sans enfants qui ont aussi eu de ces chiens, donc il n'y avait pas forcément un critère particulier.
Non, c'est bien avec des seul. Enfants, les chiens sont directement habitués aux enfants, c'est plutôt vivant. Alors il y a des familles, il y a des personnes seules. Il n'y a pas de critère à ce stade très précis.
C'est assez ouvert, en fait.
C'est assez ouvert, oui, tout à fait. Ouais.
Ouais, c'est super sympa. Et en fait, cette formation, elle a certainement un coût.
Alors, elle a un coût, en fait, cette formation. La formation complète, elle dure environ 2 ans, 2 ans et demi. Le coût, à peu près, se monte à 57 000 francs par chien. Ça comprend évidemment l'élevage, le suivi en famille de parrainage, la formation proprement dite avec un instructeur professionnel, le cours d'introduction ensuite auprès de la personne handicapée de la vue, le suivi du binôme tout au long de la vie du chien guide. Ça comprend également la prise en charge du vieux chien. Ça prend également en compte les frais de vétérinaire, de nourriture, le matériel d'hébergement pendant la formation, tout au long de la formation du chien, en fait.
Donc, on voit qu'il y a énormément de choses qui sont prises en charge par la fondation durant la formation, juste finalement, durant presque toute sa vie. Je crois qu'on y reviendra un peu plus tard. Une question, on a parlé aussi de tout ce que la fondation permet de faire. Les personnes qui bénéficient d'un chien guide pour aveugles, est-ce qu'elles doivent s'acquitter, on disait, de l'achat du chien? Visiblement non. Est-ce qu'elles doivent payer? Comment ça se passe? Est-ce qu'elles ont quand même quelque chose à verser sur l'acquisition du chien ou bien pas forcément?
Non, alors pas du tout. Ces chiens, ils sont remis gratuitement aux personnes non ou malvoyantes dans toute la Suisse et même dans des régions proches de la frontière en France et en Italie. L'âge minimal pour recevoir un chien guide, c'est 14 ans. Ce service est ensuite ouvert à toutes les catégories d'âge. Par contre, les prestations de l'assurance invalidité sont disponibles uniquement entre 16 et 65 ans pour un premier chien guide. La fondation se charge évidemment de toute la partie administrative avec l'AI. Le délai d'attente pour la remise d'un chien guide varie de 6 à 12 mois. Donc, c'est pas avec un claquement de doigts qu'on a un chien. Il faut être patient. Et
donc, il y a une liste d'attente.
Il y a une petite liste d'attente, mais je veux dire, 6 à 12 mois, c'est quand même tout à fait raisonnable.
Est-ce qu'on a de l'attente dans les gens qui s'inscrivent pour obtenir un chien? Est-ce qu'on sait s'il y a de l'attente?
Alors, au niveau des personnes vraiment, malvoyantes,
on remplit vraiment ces 6 à 12 mois ou bien des fois la liste, c'est vraiment la fourchette où les gens doivent attendre pour obtenir un chien?
C'est vraiment la fourchette,
normale.
Qui rentre dans un roulement en fait, assez normal, si je peux dire.
Oui, alors peut-être que nous, ça nous paraît un peu... nous, on a l'habitude d'avoir tout de suite, Sylvain. Voilà, c'est ça.
Oui. Moi, je sais que ce n'est pas vrai. Mais...
En deux clics, aujourd'hui, on a tout ce qu'on veut. Mais c'est pas comme ça
non,
avec
mais
les
c'est
animaux,
vrai que,
en fait.
Non, mais c'est vrai que là, par rapport à la formation des chiens et de la liste d'attente, ça me semble plutôt quelque chose qui est relativement court, plutôt
oui,
que long.
Oui, tout à fait.
6 à 12 mois, c'est tout à fait correct.
Ouais. Non, ça passe très, très vite. Hein. Alors, le chien guide est considéré comme un moyen auxiliaire par l'assurance invalidité qui prend en charge les frais de nourriture et de vétérinaire. Et qu'en est-il de l'accessibilité des chiens dans les espaces publics, les transports en commun, bus, train, bateau, avion, etc. Ont-ils la gratuité aussi?
Alors oui, les chiens guides voyagent gratuitement dans tous les transports publics en Suisse avec la personne non-voyante. C'est également valable pour les voyages en avion dans le monde entier. Mm-hmm. Le chien guide en fait voyage aux côtés de son détenteur mm-hmm. et pas en soute comme ce serait le cas pour un chien lambda.
Ah, tu m'étonnes.
Ou pour son chéri. Oh non.
Ah, ça va lui faire plaisir, je pense, effectivement. Mais quand on parle de l'accessibilité dans les transports et dans tous les lieux publics, lorsqu'on a préparé cette émission, on a aussi échangé sur les éventuels refus. Est-ce qu'on a, par exemple, des privés, magasins, grandes surfaces et autres, où il y a encore des problèmes, des fois, d'accessibilité?
Alors, il y a encore quelques soucis, bien qu'en principe, donc, les personnes en situation de handicap accompagnées d'un chien guide reconnu devraient avoir un droit d'accès dans tous les lieux publics. D'ailleurs, au même titre qu'une personne à mobilité réduite qui va se déplacer avec son fauteuil. Mmh. Une personne handicapée de la vue va se déplacer avec et grâce à son chien. Mmh. Malheureusement, il y a encore des situations de refus, notamment par des chauffeurs de taxi ou d'autres prestataires de services. Mais en règle générale, il faut bien avouer que les chiens guides sont bien accueillis en Suisse.
Et puis ça se passe comment en Suisse concrètement? Est-ce que ces personnes qui refusent le chien d'accompagnement pourraient être embêtées ou en tout cas verbalisées pour ce genre de refus ou non?
Non, alors pas verbalisées, simplement que c'est vrai qu'au-delà de ça, la Fondation fait un immense travail auprès de grands groupes de supermarchés voilà, pour vraiment faire reconnaître l'accès illimité à ces chiens. Enfin,
donc il y a la communication, les rencontrer, discuter avec eux, trouver un arrangement. Et puis, voilà. Bon, je pense que quand on voit dans les magasins, dans les grandes surfaces ou ailleurs, on ne voit quand même pas des troupeaux entiers de chiens guides. Donc ça ne doit pas poser forcément, mais effectivement, c'est une réalité où on a encore un certain nombre de problèmes par rapport à ça. L'information qu'on aurait voulu dire, c'est dans chacune des écoles de Branle, puisque Branle, pour ceux qui ne le savent pas et qui ne connaissent pas leur géographie vaudoise, Branle elle se situe près de Moudon. Et puis dans les écoles également du Tessin, on est composé d'instructeurs pour chiens guides, de gardiens d'animaux ou de personnel aussi administratif pour faire tourner la fondation. Est-ce que la Fondation Romande forme sur ses sites des instructeurs et des instructrices pardon, pour chiens d'aveugle?
Oui, tout à fait. Alors, il est possible de réaliser une formation en cours d'emploi qui dure 3 ans, une formation à temps plein qui aboutit sur un diplôme fédéral d'instructeur pour chiens guides d'aveugles. C'est d'ailleurs un diplôme fédéral reconnu et protégé.
Par rapport à ces instructeurs, est-ce qu'on trouve suffisamment de candidats pour cette profession qui ressemble plutôt, comme dans d'autres, quand on travaille dans ce sens-là, plutôt à une vocation?
Alors oui, il y a beaucoup, beaucoup de demandes, mais en réalité, il y a peu de places de formation.
Donc ça veut dire que ceux qui, est-ce qu'on, avec les liens que tu as dans la fondation, est-ce qu'on sait, ces gens qui n'arrivent peut-être pas à trouver, est-ce qu'ils se retournent vers autre chose? On a une idée. Qu'est-ce qu'ils font quand ils n'ont pas la possibilité?
Sincèrement, je ne sais pas.
Tu as le droit de
ne
pas savoir.
J'ai le droit de ne pas savoir.
Après, effectivement.
Je sais qu'il y a. Alors, je ne sais pas si c'est des formations similaires, mais je sais que des formations de gardiens d'animaux, par exemple, on peut la pratiquer. Dans des refuges, style SPA.
Bon, on a relativement peu, effectivement, SPA, refuge, un certain nombre de, aussi de zoos, aussi, hein, de découvertes d'animaux. Peut-être avant la première pause musicale, ma chère Sylvaine,
oui, mon cher
quelle est la durée de la formation d'un de ces instructeurs? Est-ce qu'on a une idée par rapport à ça? La formation, est-ce qu'elle est importante ou pas?
Alors évidemment, la formation, elle est méga importante. Elle dure 3 ans pour l'obtention d'un diplôme fédéral d'instructeur de chien guide pour aveugles.
Et dans ce sens, dans le cadre de la formation et précisément en termes de prestations et de possibilités du chien, a-t-on pu avec le temps repousser les limites de ce qui peut lui être appris, respectivement demandé, en pensant par exemple à des difficultés nouvelles auxquelles doivent faire face ces chiens?
Alors un exemple qui surgit assez récemment, c'est les zones de rencontre. Ces zones à 20 km/h où se côtoient voitures et piétons. En fait, ces zones, elles n'ont plus de trottoir ni de passage piéton. Dès lors, le chien il se trouve un peu perdu, évidemment, parce qu'ils sont habitués et entraînés au passage piéton et au bord de trottoir. Donc, les chiens doivent s'adapter à ce manque de repères. En fait, la société, elle évolue rapidement. Donc, la fondation adapte la formation et surtout la sélection de ces chiens. L'environnement devient plus difficile et plus exigeant, avec notamment ces zones partagées. Le nombre de personnes, il y a beaucoup de monde sur les trottoirs en ville partout. Les véhicules électriques silencieux, ça c'est aussi un nouveau. Les trottinettes, enfin tous ces éléments qui font que tout le monde doit s'adapter en fait.
Est-ce que ça veut dire que la fondation va trouver les services publics aussi, je suppose, ou bien est-ce que c'est compliqué de trouver les moyens? Actuellement, on n'a pas de nouveaux moyens pour donner des signes finalement à ces chiens quand il n'y a pas de repère. Actuellement, il n'y a rien. Alors pour faire traverser les gens, quand on est au feu, ben, on sait tous ce qu'on a sur les fameux poteaux, la petite touche spéciale. Mais pour le chien, bien entendu, qui doit traverser une zone maintenant de rencontre, par exemple, on n'a absolument rien. Et puis, il y en a pas loin de chez moi. Mm-hmm. Et j'ai regardé, effectivement, ben, il n'y a rien qui est prévu pour ces zones-là. Quoi.
Non, alors typiquement à Chezeau, près de chez moi, ils ont fait au milieu du village une zone de rencontre. Il y a une personne non-voyante à Chezeau qui se trouve en difficulté avec son chien. Moi, ce que je peux observer, c'est que bien qu'il ait un chien au harnais et sa canne blanche, en fait, les automobilistes ou les gens en général, ben,
ils ont de la peine à
respecter, okay. À laisser passer. Enfin, les gens s'en fichent, quoi. Je trouve dommage un peu ce manque de respect et d'observation, quoi. On voit quelqu'un qui est non-voyant, surtout dans ces zones de rencontre, qui prolifèrent un peu partout, d'ailleurs.
Mais je pensais justement à cette zone, même chose que toi, Caroline.
C'est dommage, effectivement. On y va pour un peu de musique, Sylvain.
Mais avec plaisir,
Queen,
une première pause musicale, à tout à l'heure.
On va faire une petite transition avec Don't Stop Me Now.
Tonight, I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. And the world, I'm turning inside out. Yeah. I'm floating around in ecstasy. So don't stop. Having a good time, having a good time.
I'm a shooting star leaping through the sky like a tiger, defying the laws of gravity. I'm a racing car passing by like Lady Godiva. I'm gonna go, go, go. There's no stopping me. I'm burning through the sky, yeah. 200 degrees, that's why they call me Mr. Fahrenheit. I'm traveling at the speed of light. I wanna make a supersonic man out of you.
Don't stop me now.
I'm having such
a good time. I'm having a ball.
Don't stop me now.
If you wanna have a good time, just give me a call.
Don't stop me
now.
I'm
having a good time.
Don't stop me
yes,
now.
I'm having a good time. I
don't wanna stop at all.
À Sainte-Croix, Cap 14 est votre expert en sous-traitance horlogère et micromécanique. Fabrication de précision pour l'horlogerie, la microtechnique et le secteur médical. Des solutions sur mesure avec un savoir-faire suisse et des délais maîtrisés. Vous êtes polymécanicien ou horloger en recherche de nouveaux défis ? Rejoignez une équipe dynamique. Plus d'informations sur cap14.ch. Cap 14, l'excellence au service de vos projets.
Chez LSL Événementiel, nous sommes passionnés par la création d'expériences inoubliables. Que ce soit pour un mariage féerique, une soirée privée ou un événement d'entreprise marquant, notre équipe d'experts est là pour donner vie à vos idées.
Ubuntu 14h-17h avec Emilienne.
Salut Mathéo.
Coucou Clara.
Dis, tu fais quoi samedi 15 février?
Moi je vais rester à la maison et toi?
Tu voudrais pas venir avec moi au carnaval pour aller voir les animaux de l'écurie des places?
Oui j'adorerais, mais il n'y a pas d'autres activités?
Bien sûr qu'il y en a d'autres. On peut aller fabriquer notre lampion pour le cortège du soir et il y a aussi des grimages pour être beau pour aller au bal des enfants. Alors tu viens avec moi?
Oui à fond, à samedi.
À samedi.
Musculation, cours collectif, coaching privé, nutrition, ta salle de sport à Sainte-Croix, des activités pour toi, Fitness Liberty.
Vous êtes de retour dans l'émission Stammtisch et avons le plaisir de partager la compagnie de Madame Caroline Pittet, qui a la charge d'Enzo, un mâle labrador reproducteur de la Fondation Romande pour chiens guides d'aveugles. Caroline, comme pour toutes les formations avec des chiens, un choix se fait en fonction du potentiel, mais aussi durant toute cette formation, y a-t-il des chiens qui finalement ne répondent pas aux standards et qui sont recalés? D'alors, mais qu'est-ce qu'on fait de ces chiens?
Alors en fait, tous ces chiens, donc après avoir passé la période en famille de parrainage, ces chiens sont âgés d'une année et demie environ, passent tous une phase d'évaluation. Donc la fondation à ce moment-là évalue le tempérament, l'état de santé. Certains chiens, malheureusement, ne réunissent pas les critères nécessaires pour entamer une formation de chien guide. Quelques exemples éliminatoires. Par exemple, des chiens qui ont peur, des peurs liées à l'environnement, de l'excitation, de la distraction. Ce peut être aussi un manque de motivation ou encore une éducation de base quelque peu lacunaire. Donc ces chiens sont réformés, qu'on appelle réformés. Ils peuvent être orientés vers une autre carrière comme chien d'assistance ou éventuellement placés comme chien de compagnie dans une famille.
On se rend compte assez rapidement en fait de ces peurs, par exemple. C'est avant de laisser le chien à la personne qu'on se rend compte de ses peurs.
À la personne non-voyante?
Oui, ou bien ça peut se faire même en cours de route, tout d'un coup.
Non, alors, non, en général, à l'évaluation, pas. En fait, ouais, l'évaluation, c'est assez strict. Et si il est rendu compte à l'évaluation qu'un chien a peur des bruits, ça peut être des bruits en ville, ça peut être des voitures, ça peut être des bus.
Bien
évidemment
sûr.
Que ça ne va pas être possible qu'il accompagne un non-voyant. parce qu'il le mettrait en danger, en fait. Mm-hmm. Donc non, ce chien-là, il sera réformé.
C'est joli.
Et confié à une famille. Réformé, ou bien moi j'aime bien l'expression, pas fait pour ce métier. Réformé, c'est un peu...
Oui.
Pas fait pour ce métier, c'est joli.
C'est mieux, effectivement. Nous avons parlé précédemment de la formation des instructeurs, des chiens et de l'activité de ses compagnons précieux. Avec Martial, ton compagnon, vous avez la charge d'Enzo. Alors, Enzo, c'est la mascotte de la radio. Un malheureux producteur. Peux-tu nous expliquer comment s'est passé votre engagement auprès de la Fondation avec ce chien au destin quand même particulier?
Alors, en fait, c'est un hasard, un heureux hasard. C'est grâce à une amie qui travaille à la Fondation. Elle nous a mis en lien avec Christine Baroni, qui est la directrice de la Fondation romande pour chiens guides d'aveugles. Elle nous a mis en lien donc avec Christine, on s'est rendu à Branle. Christine nous a présenté Enzo. Et en fait, c'est Enzo qui nous a adoptés. Donc, ensuite, c'était trop génial. On a donc signé un contrat avec la Fondation. Ce contrat stipule notamment notre rôle et responsabilité d'apporter à Enzo, qui avait alors une année et demie, mm-hmm. il en a 6 et demi aujourd'hui, donc 5 ans d'un joli parcours.
Et toi, et vous, je te coupe, mais quel a été votre contrat avec Enzo?
En fait, c'est tout simple, hein, le contrat, c'est du bon sens, déjà, de l'amour.
Et beaucoup d'amour, je pense.
Et beaucoup d'amour. Alors ça c'est clair, mais on doit lui apporter tout ce dont il a besoin pour s'épanouir, évidemment, des bons soins, de la bienveillance, mm-hmm. un suivi vétérinaire, notamment s'agissant des vaccins. Ça c'est très strict alors, hein, mm-hmm. pour les chiens d'élevage, les vaccins, ça doit être suivi scrupuleusement. Évidemment, beaucoup de balades. Ce qui est encore préconisé, c'est que ces chiens guides en réalité, ne doivent pas rester seuls. Ils doivent accompagner leurs détenteurs partout, ce qui est le cas pour Enzo, il nous accompagne partout. J'ai de la chance de l'avoir au travail, puisque sur ma place de travail, ils acceptent qu'on prenne nos chiens.
C'est génial.
Donc
ça.
Mes collègues ont leurs chiens. Il y a une jolie équipe de collègues, mais surtout une jolie équipe de chiens. Donc c'est assez sympa le matin quand on se voit. Tout le monde se dit bonjour, les chiens aussi.
Et puis je pense qu'avec l'habitude, ils s'apprécient.
Oui, ils se connaissent autant que nous, on connaît nos collègues. C'est des collègues aussi, finalement. Ça devient des collègues. Mm-hmm. Voilà.
Alors peut-être, si on peut se permettre une question un petit peu plus personnelle. Est-ce que l'engagement auprès de la Fondation, décidant de s'occuper d'un chien comme Enzo, était-ce d'emblée une évidence, autant pour toi que pour Martial, ton ami? Autrement dit, un chien est une charge, et tu me l'as dit, une responsabilité. Il dépend clairement de son maître. Dès lors, l'évaluation qui est liée aux contraintes, est-ce qu'elle doit être bien entendu totalement partagée? Mais est-ce que dès le départ, est-ce que toi et Martial, vous étiez vraiment sur la même longueur d'onde, ou bien ça se discute? Et puis, parce que toi, je crois que tu as d'une part déjà eu des chiens, tu as un cheval, tu faisais du cheval. Donc les animaux, pourtant c'est quelque chose qui est connu dans ton environnement privé et personnel. Comment ça s'est passé avec Martial?
Je dois être franche.
Ah, voilà.
Il est juste à côté, je vais être franche. Alors, en fait, c'est vrai que j'ai toujours des chiens, des animaux depuis toujours. Martial n'a jamais eu d'animaux, mais il est complètement rentré dans mon trip. Parce que sinon, il sortait de chez moi, en fait.
Carrément.
Non, alors c'est clair que quand on s'est rencontrés, j'avais déjà plein d'animaux, notamment une chienne labrador qu'on a perdue peu de temps après. Et pendant quelques années, on n'a pas eu de chien.
Mm-hmm. Il faut s'en remettre hein, de perdre un chien quand même. Hein.
Alors ouais, d'une part, et puis voilà, on se disait on reprendra un chien à la retraite, on aura plus de temps et tout. Et en fait, l'occasion a fait que Martial, il a complètement adhéré à ce projet.
Et il n'a pas eu le choix.
Je crois que ça se voit en plus. Hein,
c'est réciproque.
Ouais, exactement. Je crois que effectivement, il est tombé amoureux aussi de ce chien-là.
Un trio d'enfer.
C'est vrai. Moi qui vous comptais quelques fois, effectivement, c'est un trio d'enfer.
Merci.
Est-ce qu'on se refait une petite pause
musicale? Oui, parce
qu'en
fait, il y a Amour polaire de Nicolas Fraissinet. Pourquoi ce choix, Caroline?
Je suis fan de Nicolas Fraissinet.
Alors, c'est parti.
Thank you. l'amour, c'est ton cœur de lumière. Nous aimerons la douceur de l'hiver, avant la sueur et les calices de l'enfer. Loin de toi, je nous y vois et repense à tout ça, comme si le temps n'allait jamais compter. Nous oublions le sommeil, comme quand le soir nous soulage de l'été. Nos suaves marées s'éveillent, là, le jour s'en va. Avant que tout ne sèche, vivre d'amour et d'eau fraîche. Oui, je rêve de nos amours glaciaires, avec ton corps pour seule couverture sanctuaire. Nous chanterons nos âmes à la mer, avant que le monde fonde nous ainsi. Moi et la terre à l'envers, loin des humains, empires, croisades à faire, loin des déchus, déchets de chair. Je t'emmène au loin que nos cœurs s'envoient en l'air,
comme si le temps n'allait jamais compter. Nous oublions le sommeil, comme quand le soir nous soulage de l'été. Nos suaves marées
Bienvenue, nous sommes de retour dans l'émission Stammtisch avec Caroline Pitet qui représente la Fondation Romande pour chiens guides d'aveugles ce soir. Et Caroline, combien d'années un chien guide peut-il exercer son activité, sous réserve bien entendu d'un problème de santé au particulier?
Alors évidemment, le chien doit être en parfaite santé. En moyenne, un chien peut guider entre 8 et 10 ans. Comme il commence à travailler environ à l'âge de 2 ans et demi, ben, c'est vrai qu'ils vont à la retraite au plus tard, à 12 ans.
Et Enzo, lui, ce fameux mâle labrador, chou comme un cœur et si gentil, son statut de reproducteur, quand est-ce qu'il va mettre un terme à sa carrière de séducteur confirmé?
Alors mon séducteur confirmé Enzo, en fait, tant qu'il est en pleine santé, il peut sans autre reproduire. Il y a des contrôles vétérinaires annuels extrêmement pointus qui ont lieu chaque année pour ces chiens d'élevage, qu'il s'agisse d'ailleurs des mâles ou des femelles. Mais tant qu'ils sont en santé, évidemment, ils peuvent reproduire.
Alors, une petite question par rapport à la reproduction. En fait, ça se passe à branle aussi ou...
Ça se passe à branle,
donc,
oui.
Ils rencontrent toujours les mêmes dames, alors, en fait?
Non, ils ne rencontrent pas toujours les mêmes dames. Alors derrière, il y a une génétique extrêmement pointue.
Oui.
Donc, alors par exemple, Enzo, comme il est assez grand, il va rencontrer plutôt une dame plus petite,
okay,
pour faire un chien taille moyenne, si je dis avec mes mots.
Mm-hmm.
Il a quelques soucis de gènes dans les yeux,
mm-hmm,
qui pourraient se développer sur sa descendance si sa compagne avait le même gène d'une maladie aux yeux. Donc vraiment, c'est hyper pointu. Chaque gène de chaque chien est connu et ces chiens-là sont évidemment pas mis ensemble.
Ok. C'est un sacré, c'est une sacrée affaire. C'est vraiment quelque chose de, d'hyper, comme tu dis, hyper pointu.
Ouais, ouais, la génétique, je sais que Christine, elle est passionnée de génétique. Elle connaît vraiment tous ses chiens. Elle sait exactement quel chien est porteur de quel gène. C'est une vraie passion. C'est un truc de ouf, en fait.
C'est génial. En tout cas, c'est remarquable. Hein, Sylvain ?
Ouais, j'espère que nos auditeurs et auditrices n'auront pas fait l'amalgame raccourci facile que la reproduction se faisait à branle, mais on a le droit à l'humour aussi dans cette émission, n'est-ce
c'est
pas?
C'est quand même le comble hein, d'être oui, mal reproducteur à branle.
C'était plutôt bien choisi, effectivement. <quoi. rire> On voulait savoir aussi, si en parlant de travail, hein, clairement de travail et d'activité, est-ce que les chiens guides doivent être au bénéfice d'un temps de récupération nécessaire en fonction du rythme éventuel ou des activités de la personne malvoyante? Comment ça se passe par rapport à cette récupération?
Alors les chiens guides, ils travaillent à chaque fois évidemment que leur détenteur se déplace, puisqu'ils se déplacent grâce à l'aide de leur chien. Mais entre deux, ces chiens, ils ont beaucoup de temps libre. Comme tout chien, en fait, ils bénéficient de temps de promenade, de jeux, de câlins. Au-delà de leur job, ils ont une vie de chien tout à fait normale.
Donc c'est une récupération tout à fait normale en fonction du rythme des activités de la personne pour qui ils travaillent, en fait.
Voilà, d'accord. Ouais, tout à fait.
Après une partie de vie de chien un peu spéciale, bien remplie, hein, comme tout un chacun, une retraite bien méritée s'offre à ses guides à quatre pattes. Comment se passe cette retraite pour ces chiens et qu'est-ce qu'on peut leur offrir?
Alors déjà, il y a une liste d'attente assez longue de familles qui sont prêtes à accueillir et à offrir à ces chiens guides retraités une belle continuité de vie. Mais évidemment, le plus important, c'est d'avoir du temps et un rythme de vie adapté à un chien vieillissant. C'est parfois un peu compliqué, peut-être un peu triste, des fois, mais voilà.
Oui, alors je pense que oui, il y a un petit côté quand même un petit peu de nostalgie, peut-être.
Oui,
hein,
oui.
Quand même.
Mais c'est vrai que ces familles, elles sont chouettes parce qu'elles accueillent ces chiens. Et puis ces chiens, ils ont le droit d'avoir une retraite digne, peut-être une fin de vie digne, finalement aussi.
Absolument. Alors moi, je dois dire que ces familles, je les trouve aussi épatantes, parce que accueillir un chien qui a déjà vécu une bonne partie de sa vie, c'est pas nous qui allons les éduquer, c'est pas, il n'est pas fait à nous. Donc, c'est vraiment un accueil qui est vraiment chouette.
Ouais, c'est magnifique. Ce travail qui est fait là aussi, waouh.
Caroline, je peux te demander la différence entre l'accueil et le parrainage, en fait?
Alors en fait, c'est un peu, je dis, un statut. Les familles de parrainage s'occupent de sociabiliser le chien depuis l'âge de 9 semaines jusqu'à une année et demie environ. Et puis elles signent également un contrat, donc comme je le disais tout à l'heure, avec la fondation. Elles doivent emmener partout le chien, dans les magasins, dans les transports publics, les manifestations, les spectacles, etc. Vraiment partout. Et la famille d'accueil, alors le terme est un petit peu différent, la famille d'accueil se voit confier un chien d'élevage, que ce soit un mâle ou une femelle d'ailleurs. Ces chiens restent dans les foyers durant toute leur vie, contrairement aux familles de parrainage qui rendent le chiot à l'âge d'une année, une année et demie. Nous, on a la chance de pouvoir garder Enzo avec nous jusqu'à son dernier souffle. Et j'aurais moi-même beaucoup de peine à redonner un chiot. Et chapeau à ces familles de parrainage qui font un job exceptionnel. Mmh, bravo à elles, vraiment.
Oui, il faut savoir dans quel but on le fait. Et puis, il y a quand même une séparation au bout de cette année et demie.
Alors, je pense que ça doit avoir beaucoup de sens pour ces familles aussi. Mais oui, alors effectivement, moi, je suis admiratrice parce que c'est quand même, tu le reçois quand même relativement jeune, hein, à 9 mois, hein, si je ne fais pas d'erreur. Et puis jusqu'à
9 semaines.
Pardon, 9 semaines, pardon.
Pas de souci.
Excusez-moi. 9 semaines. Encore, au pire encore. Non, 9 semaines. C'est vraiment, comme tu disais avant, une petite boule d'amour. Que tu as envie de garder quand même beaucoup plus. Et puis ça doit être quand même assez. Malgré tout, ça doit quand même être un petit crève-cœur de t'en séparer. Même si effectivement.
La mission, au final, elle est belle. Ah, donc c'est vrai que ces familles de parrainage sont conscientes que la mission au final est belle. Et je pense que c'est une grande fierté que de voir son chiot devenir chien guide. Je pense que c'est la plus belle reconnaissance.
Ça a du sens, donc c'est pour ça, ça donne du sens. Et puis ça permet peut-être une séparation moins douloureuse, parce que ça donne du sens. On sait que ce chien va être remis ensuite à une personne non-voyante, et puis à un objectif et un but qui est vraiment magnifique dans ce sens-là. Donc je pense que ça doit aider un peu.
Ouais, la mission est vraiment forte.
Et on sait pourquoi on le fait au début, et on sait qu'on va devoir s'en séparer. Donc effectivement.
Oui. Tout à fait, oui.
Bon, ces chiens sont des travailleurs, sont là, bienveillants et sécurisants. Alors, ce n'est pas des sportifs d'élite, mais est-ce qu'ils sont soumis à une nutrition contrôlée? Est-ce qu'ils ont un régime spécial par rapport à l'activité qu'ils doivent donner?
Non, non, non. Alors, ils n'ont pas du tout de régime spécial. La nutrition, elle est assurée exclusivement par le partenaire de la fondation. Je ne sais pas si je peux le nommer. Purina.
Ça y est, c'est fait.
Voilà. C'est fait. C'est fait. Ah, voilà, c'est fait.
Donc ça veut dire que c'est une bonne marque.
Voilà. Voilà, donc c'est le partenaire de la fondation pour tous les chiens, en fait. Les chiens en parrainage, les chiens d'élevage et les chiens guides.
Et d'accord, donc ça c'est dit. Et puis, encore une autre question. Au vu de leur tempérament, de leur activité comme chien guide, est-ce que ce sont des chiens faciles, même pour une personne seule ou une famille dans l'accueil de l'un d'eux, pour profiter d'une douce retraite?
Alors ces chiens, ils sont juste exceptionnels, donc issus de l'élevage des chiens guides, puisque la fondation a son propre élevage. Donc c'est des chiens qui sont vraiment formidables et qui sont bien dans leurs pattes, faciles, de tempérament calme. Mais je dis, genre force tranquille, calme quand il faut être calme, énergique quand il faut l'être, volontaire quand il faut l'être. Des chiens, à mon sens, exceptionnels.
Facile. On n'a finalement pas de problème avec un chien quand on a envie de lui offrir une belle retraite, d'avoir un compagnon. Donc, hormis les problèmes de santé de tous des chiens qu'ils peuvent avoir, autrement, c'est un chien qui est équilibré.
C'est un chien qui est équilibré, vraiment. C'est un chien en qui on peut avoir vraiment toute confiance. Il est tellement équilibré, pas rien, pas une once de méchanceté. C'est vraiment des chiens vraiment faciles, faciles.
Est-ce que c'est la race Labrador qui est aussi facile, ou bon, visiblement il y a vraiment tout un travail derrière, hein, pour que le chien devienne vraiment s'adapte à la personne qui va accompagner. Mais les Labradors, je crois qu'ils sont quand même assez.
Bon, le Labrador est quand même un chien de famille, peut-être plus qu'un chien de chasse ou Donc c'est déjà à la base quand même un chien de famille. Après, ça dépend de la souche. Et de nouveau, on travaille la génétique pour avoir des chiens super gentils, des chiens calmes, des chiens bien dans leurs pattes. Derrière, il y a tout un travail énorme qui a été fait.
J'aime beaucoup l'expression « bien dans leurs pattes ». J'adore.
Ouais, bien dans leurs pattes.
Ouais, ça donne quand même, des fois, ça donne envie. Et surtout, de pouvoir avoir un chien qui est déjà éduqué, sociabilisé, etc. C'est vrai que moi, on donnera dans quelques instants. Pardon ?
T'en prendrais un, Sylvain.
Oui, on en a déjà causé, mais je pense que ça n'est pas toujours si simple en fonction de ce qu'on fait.
Comme puis, profession, effectivement.
Alors même après, quand tu as peut-être une activité professionnelle à l'arrêt ou moins soutenue, c'est quand même une charge. Et comme tu disais, c'est pas un chat qui est plus indépendant, dont on peut gérer pas la même chose le quotidien. Un chien, il dépend clairement de son maître. Et puis ça, c'est quelque chose, c'est une charge qu'on doit bien se rendre compte de tout ce que ça implique. Et c'est pas si simple que ça, effectivement.
C'est une charge. Alors, moi, je dirais plutôt, c'est une responsabilité.
Oui, une responsabilité. Une charge. Oui, tu c'est peux pas appelé. Oui, c'était peut-être pas forcément le mot approprié, mais je pense qu'on s'est effectivement compris par rapport à ça. Ouais.
C'est vrai qu'on ne prend pas un chien. Enfin, on réfléchit avant de prendre un chien. Comme tu disais, un chat, c'est plus facile. C'est aussi une jolie compagnie, plus indépendante. Un chien, c'est une magnifique compagnie aussi, mais c'est une responsabilité que de bien le traiter, de le sortir, de lui offrir tout ce dont il a besoin. Moi, personnellement, un chien qui est dans son domicile de 6h du matin à 19h le soir, autant prendre un chat.
Mais tu parlais avant de la chance de pouvoir l'emporter, enfin le prendre avec toi au travail. Et puis ça, c'est quelque chose que tout le monde ne peut pas faire non plus. Donc
alors, c'est une des conditions à remplir pour que la fondation te confie un chien, c'est qu'il ne doit pas rester seul. Tu l'emmènes partout avec toi.
Et là, c'est vraiment une condition. Idéale,
en définitive, avec ton travail. Pour toi, c'est
alors moi, je m'étais
génial.
J'avais demandé, évidemment, avant à mon employeur, si c'était OK que j'emmène le chien au travail. Si ça avait été non, eh ben, je ne pouvais pas accueillir Enzo. En l'occurrence, j'ai la chance de travailler à l'orée des bois. J'ouvre la porte de mon bureau, je suis dans la forêt. Donc l'endroit est magnifique. On a la chance de pouvoir prendre nos chiens au travail. Donc c'est vraiment une situation privilégiée.
Idéale et privilégiée.
Ouais, complètement.
Et puis, effectivement, moi j'aimerais énormément travailler avec avoir mon animal. animal de compagnie, un chien en l'occurrence. Ça, alors c'est quelque chose, je ne peux pas actuellement, mais c'est quelque chose que j'aurais rêvé.
Parce que juste, même à la retraite, hein, c'est juste, hein, le chien appartient toujours à la fondation.
Jusqu'à son dernier souffle, le chien appartient à la fondation sur les papiers, oui. Ouais.
Caroline, Sylvain.
Eh bien oui, effectivement, notre déchirement, c'est que l'émission se termine déjà avec toi, Caroline. On te remercie infiniment pour avoir répondu à notre invitation et ta visite nous a fait du bien. Et merci pour ce bel engagement. Nous saluons aussi Madame Christine Baroni, directrice de la Fondation, et on souhaite le meilleur à cette Fondation romande pour chiens guides d'aveugles. Nous adressons aussi, c'était vraiment important aussi pour vous et pour toi, Caroline, d'adresser les meilleurs messages à tous les collaborateurs de cette Fondation, à toutes celles et ceux qui œuvrent en qualité de professionnel ou bénévole, pour améliorer au quotidien les conditions de vie des personnes atteintes de déficience visuelle. Si vous désirez vous renseigner, vous pouvez vous rendre sur le site internet de référence qui est www.chienguide.ch/fr. Et puis vous rentrez également à la Fondation à Branle, hein, sur le site près de Moudon, où il y a 6 visites par année de cette fondation. Les prochaines sont le 5 avril, le 3 mai, le 7 juin, le 6 septembre, le 4 octobre et le 1er novembre. Toutes les informations vous seront données sur le site. Et pour rappel, ben, les dons, bien entendu, sont les bienvenus. On remercie également Beauvais Électricité pour le parrainage magnifique de cette émission. Et on vous dit bien sûr à demain avec nos prochains et derniers invités de la semaine. Nous recevrons de 19h à 20h l'association ARFEC, association romande des familles d'enfants atteints d'un cancer. Chère Caroline, Sylvaine, ainsi qu'à toutes et tous, une très belle et douce soirée.
Merci,
à demain,
Sylvain.
Salut. Et puis un petit
morceau de musique. Merci Caroline, et puis on va terminer avec un dernier morceau qui est Gérard Blanchard avec Rocamadour. Est-ce que tu as un petit commentaire ?
J'ai un petit commentaire. Pourquoi Rocamadour ? Parce que Rocamadour est le nom de mon cheval. Merci beaucoup à vous.
Merci.